Rebonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs, vous êtes bien sûr Transistor, il est 20h pour de bon cette fois-ci, ou plutôt 20h03 passé de 30 secondes. Vous écoutez le journal radiophonique Amplifié, et c'est parti pour une heure d'actu que mes camarades et moi-même vous retransmettons, mixé, égalisé, monté, et bien sûr amplifié. Et sans plus tarder, sans annoncer le programme, parce qu'une seconde de gagné est toujours une seconde de gagné, nous passons au journal. Rebonsoir Maë et bonsoir François-René.
Bonsoir Rémi.
Bonsoir Rémi.
Au national d'abord, la situation se crispe entre Édouard Philippe et les cheminots et la menace d'une grève générale flotte dans l'air. Le Premier ministre a en effet entrepris de réformer la SNCF pour cause d'une dégradation des services, retards, pannes et du coût élevé pour les finances publiques.
En plus de sa volonté d'ouvrir le réseau ferroviaire à la concurrence, il s'attaque notamment au statut des cheminots.
Ce statut qui assure certains avantages aux employés, notamment en termes de retraite ou pour l'impossibilité de se faire licencier pour motif économique, est pointé du doigt comme étant en partie responsable des maux du système ferroviaire. Pourtant, rien n'est moins sûr. Le manque d'investissement sur les petites lignes, les retards ou autres sont en effet difficilement inculpables aux cheminots. Toujours est-il qu'Édouard Philippe est décidé à prendre la situation en main malgré l'opposition de l'ensemble des syndicats concernés et la décision du gouvernement de procéder par ordonnance a contribué à crisper encore plus la situation. Mardi, 8 activistes de Greenpeace s'étant introduits dans la centrale nucléaire de Cattenom en octobre ont été jugés. Ils ont été condamnés à des peines allant de 5 mois de prison avec sursis à 2 mois de prison ferme.
L'association se dit particulièrement déçue, notamment parce qu'il s'agit de la première que ces activistes sont condamnés, première fois qu'ils sont condamnés à de la prison ferme. Un jugement qui paraît sévère pour beaucoup quand des faits. Pardon.
Dans les faits,
les militants ont franchi quelques grillages et se positionnent comme des lanceurs d'alerte.
Le gouvernement, d'ailleurs, s'était appuyé fin 2017 sur cette alerte lancée par les militants pour revoir la sécurité des centrales nucléaires françaises. Ce procès relance la question du nucléaire, mais également celle de la lutte militante. Comment la justice se positionne-t-elle face à des personnes qui se battent pour des idées de manière pacifique? Jusqu'à quel point doit-on réprimer ce type d'initiative? Un sujet que la situation à Bure semble également questionner. En effet, jeudi dernier, la ZAD de Bure a été évacuée avec plus de 500 policiers mobilisés pour l'opération. Pour rappel, depuis un peu plus de 2 ans, des militants occupent une forêt sur place pour lutter contre le projet du gouvernement d'en faire un site d'enfouissement nucléaire, un sarcophage destiné à tenir des milliers d'années ou accumuler des déchets radioactifs.
Le chantier, qui serait le plus grand d'Europe, a suscité dès lors de nombreuses réactions.
Après l'expulsion jeudi dernier des personnes occupant la ZAD, de nombreux militants se sont interrogés sur la légalité de celle-ci. En effet, je parle de l'expulsion. En effet, les forces policières se seraient appuyées sur une ordonnance de Gérard Collomb prononcée il y a plus d'un an et dont la validité peut être remise en cause. De même, les forces de l'ordre se seraient appuyées sur un flou juridique pour procéder à l'expulsion de la zone. Et les huissiers n'ayant pu identifier les personnes sur place, le tribunal a simplement décidé qu'on pouvait procéder à expulsion sans les entendre.
Toujours est-il que la ZAD a été évacuée, mais les antinucléaires affirment qu'ils continueront à lutter.
Nicolas Hulot, lui, s'est fait discret dans cette affaire. Lui qui avait pourtant fait savoir, avant son entrée dans le gouvernement, qu'il soutenait l'action des militants à Bure.
Guerre civile en Syrie, les combats au sol opposent des unités d'élite à l'armée syrienne et des miliciens pro-Assad à plusieurs groupes armés rebelles, souvent d'inspiration islamiste.
Cette région, située à l'ouest de la Syrie, pas très loin de la frontière libanaise et pas très loin de Damas, est le dernier bastion d'envergure des rebelles près de la capitale Damas.
Bachar el-Assad veut y lancer une offensive terrestre pour mettre un terme aux tirs de roquettes qui visent fréquemment la capitale. Assiégée depuis 2013, la Ghouta orientale et ses quelques 400 000 habitants sont pris en étau tandis que leur situation humanitaire dans cette poche exiguë est devenue incontrôlable. Malgré le cessez-le-feu partiel quotidien, les combats au sol se sont intensifiés sur plusieurs flancs autour de la Ghouta depuis le 25 février. Les affrontements ont été précédés par plus d'une semaine de raids aériens des forces pro-régime contre le fief rebelle, raids qui ont fait plus de 550 morts selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme.
La bataille de la Ghouta orientale s'annonce acharnée.
Oui, si les pertes humaines sont moindres dans la capitale, les habitants y vivent aussi au rythme de la guerre. Les mortiers lancés par les combattants rebelles ont fait une vingtaine de morts depuis le 18 février. Bien que le pouvoir syrien ait endossé, à l'été 2017, l'accord de désescalade locale parrainé par les Russes, son ambition pardon, n'a jamais varié. Reconquérir l'ensemble du territoire national et la route orientale est le talon d'Achille de Damas. Piégés sur place, les civils souffrent, en plus des bombardements, de graves pénuries alimentaires et d'une forte hausse des prix selon l'ONU. La malnutrition est à présent à un niveau record et du fait des bombardements, le nombre de personnes nécessitant une évacuation ne cesse d'augmenter. Londres rejette la proposition de Bruxelles sur l'accord de divorce du Brexit. Il aura fallu à peine plus d'une demi-heure mercredi 28 février au gouvernement britannique pour rejeter avec véhémence la proposition d'accord de divorce préparée par la Commission européenne sur le Brexit. Aucun Premier ministre britannique ne pourrait jamais l'accepter, a lancé Theresa May devant la Chambre des communes lors de la séance hebdomadaire des questions à la Première ministre.
Le point de blocage demeure la question de la frontière entre la République d'Irlande indépendante à majorité catholique et l'Irlande du Nord à majorité protestante qui appartient au Royaume-Uni.
Entre ces deux espaces se dresse une frontière dite ouverte, c'est-à-dire sans douaniers. Mais avec le Brexit qui conduit à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, il devient juridiquement impossible de maintenir cette frontière ouverte puisque la République d'Irlande, aussi appelée R, reste bien dans l'Union européenne, contrairement à son voisin l'Irlande du Nord qui fait partie du Royaume-Uni. Pour éviter le rétablissement d'une frontière physique entre les deux Irlandes, Bruxelles propose une R réglementaire commune. Mais le Royaume-Uni s'y oppose formellement car il considère que l'instauration d'une telle R conduirait dans les faits à ce que l'Union européenne annexe officieusement l'Irlande du Nord. Européens et Britanniques sont pourtant d'accord sur le principe, il faut maintenir une frontière ouverte conformément à l'accord du Vendredi Saint qui avait mis fin en 1998 à 30 ans de conflit en Irlande du Nord. Si le principe d'une aire réglementaire est maintenu, l'enjeu est en fait de savoir qui, de l'Union européenne ou du Royaume-Uni, édictera les règles de douane entre les deux Irlandes. Bruxelles avait bien indiqué que Londres pouvait proposer une solution spécifique au problème irlandais, mais en l'absence d'une telle alternative, le texte publié hier propose que l'Irlande du Nord reste dans l'union douanière. La Cour de justice de l'Union européenne resterait compétente sur l'Irlande du Nord. Cela signifierait que le Royaume-Uni n'aurait pas la souveraineté sur sa frontière irlandaise. Cela signifierait aussi, à long terme, la possibilité d'un rapprochement des deux Irlandes et peut-être d'une réunification, ce que craignent les unionistes protestants d'Irlande du Nord.
Toutefois, à en croire le Daily Telegraph, le but de l'Union européenne est plus prosaïque que l'annexion de l'Irlande du Nord.
Oui, fatigué des tergiversations du gouvernement britannique, Bruxelles souhaite, je cite, « forcer la main de la Première ministre en l'obligeant à exposer au plus vite sa vision de la future relation avec l'UE ». Ce n'est pas un hasard d'ailleurs si Theresa May doit justement donner vendredi un discours crucial à ce sujet.
Et on passe au sujet long.